Seigneur, bénisse. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes rassemblés ce soir afin de pouvoir recevoir quelques paroles de ta part pour nous encourager, pour nous réprimander, pour nous conseiller dans cette marche, que nous puissions ainsi continuer sur la route que tu as tracée, que nous ne quittions pas le droit chemin. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, que ta parole nous soit apportée, inspirée, et que pour tous nos péchés, tu ne nous en tiennes pas rigueur. Veuille bien nous pardonner et nous laver avec le sang précieux qui a coulé à Golgotha. Béni soit ton saint nom, et comme cela a été chanté, nous te remercions pour les guerres, pour les tentations, pour les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Tout cela, c'est pour notre bien, et que ton nom soit loué pour cela. Te demandons de nous assister encore pendant la dernière partie de la réunion. Bénis tes enfants richement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous lirons dans Deutéronome. Chapitre 32. On ne lira qu'une phrase du verset, on ne lira pas tout le verset. Quoique tout est dit, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Verset 11. On va tout lire. Le verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous intéresserons ce soir à l'aigle qui éveille sa couvée, c'est-à-dire qui la tient éveillée, que sa couvée ne s'endorme pas. Pourquoi doit-il tenir sa veillée, sa couvée éveillée? C'est parce que quand l'aigle naît, quand les aiglons naissent, lorsqu'ils éclosent, ils sortent de l'œuf, eh ben, ils rencontrent un environnement douillet. La maman aigle a pris soin de placer au-dessus des branches qui piquent, au-dessus des épines, des chardons qu'elle a mis pour constituer son nid, n'est-ce pas? Elle a pris soin de mettre, de tapisser cela par des peaux d'animaux, des proies qu'elle a capturées, des proies qu'elle a mangées, elle a gardé les peaux et elle a tapissé. Ce qui fait que l'endroit où naissent les aiglons, là où ils éclosent, c'est un endroit bien douillet. Vous voyez? Et l'aigle ne fait pas son nid sur les arbres. Sur le sommet des arbres, l'aigle fait son nid comme beaucoup de rapaces d'ailleurs. Il y a des faucons ici à Bruxelles qui ont trouvé l'emplacement idéal, c'est dans des espaces, dans l'espace ici à l'église, la cathédrale Saint-Michel, où les gens s'habituent à les filmer. Donc, mais l'aigle fait son nid, l'aigle va encore plus haut que le faucon L'aigle va dans les creux des rochers et souvent à une altitude où la vie animale est quasi impossible pour les autres animaux. Ça évite que les prédateurs puissent atteindre les nids. Si même un faucon, s'il veut aller à la hauteur de l'aigle, il peut se désintégrer. L'aigle vit à une hauteur quasi inaccessible pour les autres animaux. Et quand il capture un animal, il part, il s'en va, il capture une proie, s'en va avec la proie. La proie a déjà difficile rien qu'avec la pression de l'air lorsque l'aigle va avec sur les hauteurs. Donc, c'est dire que les aiglons sont en sécurité. Ils n'ont rien à craindre. Que tout est bien, tout est très bien. Oh, tout est gentil, tout est beau. Alors, bien sûr, quand tout cela est ainsi, on a tendance un peu à se laisser aller. La maman aigle aura beau dire, soyez prudents, ils ne voient vraiment pas ce qui peut leur arriver. Ça va? Et l'Éternel, si on avait continué la lecture, nous voyons au verset 12, il dit, l'Éternel seul a conduit son peuple depuis l'Égypte, juste à travers du désert, jusqu'en Canaan. Et lorsque les fléaux se sont abattus à, où ça, en Égypte, eh ben, le peuple de Dieu était dans un endroit douillet, à Goshen. Aucun fléau ne les atteignait. Ils étaient tous très bien. Ils n'avaient aucun problème là-bas. Et c'est l'Égypte tout entière qui encaissait les coups des fléaux. Tandis que les enfants d'Israël, ils ne subissaient pas toutes ces choses. C'est dire que quand ils ont quitté l'Égypte, certainement, et même lorsque le Pharaon, les Égyptiens les ont chassés, après tout ce qui leur est arrivé, après que la main de l'Éternel se soit appesantie sur eux, eh bien, certainement, les enfants d'Israël se sont dit que rien ne pouvait leur arriver. Hein, avec ce Dieu-là, c'est sûr que rien ne pouvait leur arriver. Mais c'est un peu vrai que, avec Dieu étant avec vous, David dit, je ne crains aucun mal. Mais quand David dit, je ne crains aucun mal, cela ne veut pas dire que David vit dans un endroit douillet. Il parle. C'est psaume 23. Il parle de verts pâturages, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ça. Il dit que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Il parle de verts pâturages, il parle des eaux paisibles, d'âmes restaurées. Mais il parle aussi de vallée de l'ombre de la mort. Il parle aussi de houlette et de bâton. Il parle aussi d'adversaire. Oui? Donc, c'est vrai, quand on est avec Dieu, on ne risque rien, on ne craint rien, mais nous devons toujours être debout, vigilants. Alors, sachant que notre Dieu est ainsi, aussi protecteur, aussi bon envers nous, quand Dieu nous dit, des temps mauvais viendront, veillez Ça sonne un peu creux dans nos oreilles. Dieu m'a dit de veiller, ok, je veille. Jésus est venu, il a marché avec les apôtres. Il manquait de rien, les apôtres. Qu'est-ce qui pouvait leur arriver? Ils avaient une dette à payer. Jésus réglait le problème. Amen. Il dit à Pierre, Matthieu 17, t'inquiète pas, Pierre. Quel est ton problème? Est-ce que les enfants du royaume payent les impôts? Les enfants du royaume ne payent pas les impôts. Matthieu 17, verset 24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient, donc le percepteur, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre, sachant très bien que Pierre aussi en devait, et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Jette tout simplement ton hameçon. Amen. Et tire le premier poisson qui viendra. Oh, combien c'est facile. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. C'est-il pas beau ça? Jean, fils de Zébédée. Jean, lui, il avait carrément la tête sur la poitrine du Seigneur. Jean 13. Il se passe quelque chose ici, au cours du repas. Jésus annonce qu'un l'un de leurs va le trahir. Verset 21, ainsi, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Mais non, hein. Certainement pas, frère Gilbert, non. Et puis maintenant, nous sommes tous des frères et des sœurs, tout est beau dans l'assemblée, tout va bien. Amen. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Vous savez, il écrit, celui que Jésus aimait. Ils savaient tous que celui-là, Jésus l'aimait. À tel point qu'avant que le Seigneur ne parte, le Seigneur dit à l'un et à l'autre, à Pierre surtout, ce qui va lui arriver. Pierre, il va encaisser ce que le Seigneur va lui dire. Il va dire, bon, c'est dans Jean 21, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quand le temps aura passé, nous venons de terminer une année. Même si c'est le calendrier romain, le temps passe. Nous sommes moins jeunes ou plus vieux, c'est selon, que l'année passée. Nous remercions le Seigneur de nous rajouter une année. Mais plus les années se rajoutent, plus les problèmes arrivent. Non seulement plus les problèmes arrivent, c'est une période où, vous savez, quand on était jeune, on entendait nos parents, on apprenait, ils sont partis au deuil, ils sont partis à ceci ou cela, mais on voyait cela espacer. N'est-ce pas? Pour eux, c'était peut-être rapproché, mais pour nous, on voyait cela espacer. Le temps qu'on perde un oncle, qu'on en perde un autre, ça prend du temps. Mais plus on vieillit, les espaces deviennent de plus en plus courts. Ouais. Et bon, dans tout ça, il faut savoir comment se tenir en tant que chrétien, avec les promesses que Dieu nous a faites, les promesses que nous tenons entre nos mains et dans nos cœurs. Donc, il dit ceci, « Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Ce sont des choses qui arrivent à un certain âge. Alors, plus l'âge avance, plus les problèmes s'accumulent. Et plus les problèmes s'accumulent, plus nous devons être vigilants. Plus nous avons besoin d'être plus près du Seigneur. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Alors Pierre se dit « Bon, ça va m'arriver, mais il y en a un qui est privilégié, que le Seigneur aimait, lui, il ne va rien lui arriver, lui. » Donc Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Bon, ok, moi je sais ce qui va m'arriver, mais lui, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Oui, le Seigneur dit une chose, eux ils ont leur interprétation. Et quand ils ont leur interprétation, pour eux, ben, il va courir un bruit. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, c'est pas ce qu'il a dit. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Alors, maintenant, si vous allez plus loin, Apocalypse 1er, vous allez voir que, malgré tout, la vie de Jean n'était pas une balade tranquille, sa fin de vie. Et le Seigneur, la parole de Dieu, nous prévient. Le Seigneur n'arrête pas de nous prévenir, veillez. Mais on est tellement habitué à ce que tout m'a, oh Dieu m'a tellement béni, que finalement, on oublie qu'il faut veiller. Vous connaissez tous ce cantique qu'on chante, même. Il n'y a pas de traduction en français, mais je vais le dire directement en français, aux jours heureux, au happy day. N'est-ce pas? Dans le cantique, il est bien dit que il m'a appris. He taught me how. Il m'a appris à veiller. Oui? Et ça s'apprend, veiller. Vous allez voir, les disciples avaient tellement facile en marchant avec le Seigneur. Le Seigneur résolvant tout le temps leurs problèmes, le Seigneur leur dit, écoutez, il y a des temps difficiles qui vont arriver. On retourne dans Matthieu 17. Ils étaient prévenus. Matthieu 17. Pendant qu'il parcourait la Galilée, verset 22, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il les a prévenus. Pour eux, ils se sont dit, c'est impossible. Le Seigneur, quand il y a des tempêtes, le Seigneur parle au vent. Quel petit. Nous sommes en présence d'un puissant prophète. En œuvre et en parole. Alors, le Seigneur leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Ils ont été prévenus. Ils ont été prévenus. Alors, maintenant, étant prévenus, quand ces temps difficiles sont arrivés, le Seigneur leur dit, veillez avec moi. Oui. En attendant de passer ces temps difficiles, le Seigneur leur dit, ceux dont on vient de citer le nom ici, Pierre, Jean et son frère Jacques, qui était là, Jacques, on n'a pas parlé de Jacques, bien sûr, mais on a parlé de Jean, fils de Zébédée, et de Pierre. Dans Matthieu 26, ces temps difficiles à annoncer sont là. Nous sommes effectivement également dans des temps difficiles. L'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront, et l'apôtre nous décrit comment seront les hommes. Et il est étonnant que, et lorsque, quand ça arrive, beaucoup sont surpris. Ah, est-ce que dans une assemblée, ce genre de choses peuvent-elles arriver? Il n'a jamais dit que dans l'assemblée, ces choses-là n'arriveront jamais. Quand les gens vont, ils seront fanfarons, médisants. Quand on médit sur vous, quand on vous calomnie, vous avez relâché la garde. Lorsque cela arrive, vous semblez être surpris. Ici, Jésus leur a annoncé qu'il sera trahi par quelqu'un et il sera livré entre les mains des hommes. Maintenant, ces temps sont là. Ils ont été dans la chambre, ils ont mangé la Pâque et ils s'en vont dans le jardin de Gethsémané. Et le Seigneur leur dit, maintenant, l'heure est là, l'heure est arrivée. L'heure est grave. Veillez. Et regardez, ils étaient tellement dans leur confort. Tellement dans leur confort. Matthieu 26, verset 38. On peut commencer au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. C'est un temps où il faut prier. C'est un temps difficile. En ce qui nous concerne également, c'est pareil. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le temps difficile est là. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, vous voyez, ses disciples, comme beaucoup de chrétiens, quand le Seigneur leur demande de veiller, le cantique dit, il m'a appris à veiller, hein? He taught me how to watch. Et il dit, et ils n'y ont pas porté attention. Ils n'ont pas mis l'importance qu'il fallait. L'heure était à la veille. Comme aujourd'hui, c'est bien de se réjouir de 2022. C'est bien de se réjouir des bénédictions que Dieu nous a gratifiées. C'est bien de nous réjouir des consolations qu'il nous a assurées, mais l'heure est plus que jamais à la veille. Mais s'il nous dit juste cela comme cela, on fera comme les disciples de toute façon. C'est pourquoi il va utiliser une autre technique. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Ouais. C'est comme ça qu'il va faire. Il va vous aider, je veux dire, entre guillemets, il va vous enseigner à veiller de la même manière que l'aigle enseigne à ses aiglons comment faire. Parce que l'aigle sait que le monde n'est pas facile. Il le sait. Et il doit enseigner à ses aiglons qu'ils doivent être sur leur garde. Qu'ils ne doivent pas vivre comme des poulets. Les poulets, ils n'ont jamais de soucis. Vous élevez des poulets, quand vous venez le matin, vous réveillez le matin, vous battez des mains, vous les voyez venir. Peut-être même que vous battez des mains pour qu'ils viennent, parce que vous en avez déjà choisi un pour le déjeuner, enfin pour le dîner du jour, mais il ne se rend pas compte que vous l'avez appelé pour cela, vous l'avez attiré pour cela, et puis vous l'attrapez, et bon, les autres restent, et les autres vont rester là. Et le diable attrape certains chrétiens comme ça, certains enfants de Dieu comme ça. Il bat des mains, et les voilà. Non, l'aigle apprend aux petits aiglons d'être vigilants. Et Jésus, quand il va revenir, alors que l'heure est grave, il va les trouver endormis. Verset 40, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez. Il y a la tentation qui vient. Oh, moi, Dieu m'a déjà délivré de ces choses. » Il y a la tentation qui arrive. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit, c'est vrai, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ouais. Ce qui est fantastique, justement, avec l'esprit, il raisonne, il mémorise, il éprouve ses sentiments, il a ses pensées, il a les pensées et toutes ces choses, comme les sens qui nous ont été donnés. L'esprit, il a tout ça, mais l'esprit sait très bien influencer le corps, n'est-ce pas? Et il sait très bien influencer l'âme. Et ce sont ces deux-là. Le corps pêche, l'âme pêche. Oui. Et c'est ça. L'énorme problème. Il n'est pas dit de l'esprit que l'esprit pêche. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le corps qui pêche, c'est celui-là qui sera jugé. Hein, Paul l'appelle le corps de mort. Tout ça par des raisonnements de l'esprit. Parce que bon, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ouais. Alors, ici, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Or, moi, l'esprit va vous faire raisonner. Moi, Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Je suis bien. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, telle date. Tout ça, c'est très bien. Il ne peut rien m'arriver. Eh bien, ils sont endormis. Ils sont endormis. Et c'est le cas de toutes les vierges. Les vierges ont pensé certainement que rien n'allait leur arriver. Mais l'époux a tardé à venir. comme les poutards d'avenir, c'est le moment d'être vigilant. Et non pas nous assoupir et nous endormir. Il faut être veillant et priant. Quand je dis l'influence, le corps, bon, pour le corps c'est facile. Il peut vous conduire dans le vol, dans le meurtre. L'esprit va raisonner sur le meurtre de quelqu'un, mais l'esprit ne sait pas le tuer. Un esprit ne sait pas prendre un couteau et tuer. Il faut que votre corps intervienne. Tout comme vous pouvez nourrir votre âme, comme dit Frère Branham, vous pouvez nourrir votre âme de plein de choses. Au lieu de le nourrir de la parole de Dieu, vous la nourrissez d'autres choses. Et tout ça par l'intermédiaire de l'esprit. Il vous dit que toutes ces choses, c'est très bien. Ouais. Alors, il les trouve endormis. Il s'éloigne une deuxième fois. Il les réprimande. Hein. Il s'éloigne une deuxième fois et prie ainsi, mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Et dans toutes les circonstances où il est question de tarder, l'homme a toujours eu tendance à faire autre chose que ce que Dieu lui demande de faire. Si on prend l'un ou l'autre exemple, on peut prendre déjà un qu'on a cité, ici dans Matthieu 25. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et nous savons que cette parabole, c'est une prophétie. Du moment où le Seigneur va venir nous chercher. Dans Exode 32, Moïse dit qu'il monte vers le Seigneur et qu'il va bientôt revenir. Le Seigneur le retient là-bas, sur la montagne. Moïse ne descend toujours pas. Le peuple s'impatiente. Exode 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Parce que Moïse tardait à venir. Et nous sommes dans un temps où l'époux tarde à venir. Et Pierre nous prévient, il nous dit, beaucoup vont se moquer de nous. Ils vont dire, où est la promesse de son avènement? Depuis le temps que vous nous dites qu'il va venir, on ne le voit pas, où est la promesse de son avènement? L'heure, c'est que nous devons rester éveillés. Dieu sait que s'il nous laisse ainsi, nous allons nous endormir. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on ne reste pas en nous reposant sur nos lauriers, entre guillemets? Eh bien, Dieu nous enseigne par là comment il va faire pour nous tenir éveillés. Exactement comme l'aigle. Au début, tout va bien. Le nid est douillet. Tout va très bien. Mais après, que fait l'aigle? À un moment donné, quand ils voient que les aiglons ont poussé des plumes, donc ils n'ont plus de duvet, ces plumes légères là. Ils ont de vraies plumes pour voler. Et maintenant, c'est le moment d'utiliser ces plumes pour voler. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les peaux d'animaux qui tapissaient le nid. Ce qu'il fait, il les met dans une position inconfortable. Dès qu'ils essayent de mettre une patte quelque part, ça ne va pas. Et le frère dit que le mot aigle, bon, il le dit en anglais, je ne sais pas si c'est valable en latin, je n'en sais rien, parce que ces animaux, le nom, on leur donne en latin, mais ce n'est pas un problème. Mais il dit que ça veut dire celui qui nourrit par le bec. C'est comme nous. Nous nourrissons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, l'aigle commence par enlever les peaux qui rendaient le nid douillet. Il laisse les épines avec les chardons. Ce qui fait toute position devient inconfortable. Ça ne vous permet pas de vous endormir. Ça vous oblige à veiller. Et c'est là où, quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. L'épreuve me tient éveillé, m'enlève le sommeil. Amen. Parce que quand l'épreuve n'était pas là, je m'endormais d'un claquement de doigts. Maintenant, pour m'endormir, je dois tourner, me retourner, me retourner. Et le problème est constamment devant vous. Vous allez finir par vous lever, vous transpirer et vous mettez à genoux. Veillez et priez. C'est un temps où nous en avons besoin de veiller et de prier. On va à l'assemblée, tout semble très bien. On a un problème, les frères viennent, ils nous entourent. Tout ça, c'est très bien. Mais il arrivera un jour où Dieu fera de sorte que l'assemblée ne soit pas là. Et vous allez commencer à vous faire des idées. Même les frères m'ont abandonné. Les frères ne vous ont pas abandonné. C'est Dieu qui vous apprend à veiller. C'est Dieu qui vous apprend à vous mettre sur les genoux. Il nous a promis plein de choses. Quand il nous dit, quitte ta maison, comme il dit à Abraham, quitte tes frères, quitte tes sœurs, quitte tous ceux de ta maison, va quelque part, je te montrerai. Abraham se dit, mais je vais être seul. Vous vous dites également, mais je vais être seul. Comment est-ce que je peux laisser mon frère, ma sœur? Comment est-ce que je peux laisser mon père, ma mère? Comment est-ce que je peux laisser un tel? D'ailleurs, Abraham est parti avec son père. Son père est mort en chemin. Et Jésus dit, vous en faites pas, des frères, des pères, des sœurs, je vais vous en donner. Suivez-moi seulement. Marc chapitre 10. Alors, ces épines, comme il nous est dit dans la parabole, du semeur, ce sont les soucis de la vie. Ça étouffe la parole. Ce sont les tribulations que l'on rencontre. Dans Marc chapitre 10, le Seigneur dit ceci. Pierre lui rappelle, il dit, Seigneur, on t'a quitté sans problème, on a quitté les nôtres sans problème pour te suivre. Chapitre 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est vrai, tout a été très bien, on a vu des miracles, tu as nourri des gens dans le désert, nous avons vu tout cela, tu as calmé les tempêtes, nous avons vu tout ça, on a tout quitté. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Je vous laisse lire la suite. Oui. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et c'est ainsi que le frère dit, quand, comme l'aigle, Dieu met des épreuves devant vous, dans votre vie. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, 33. La maladie peut vous frapper. Vous pouvez avoir des troubles du cœur. Il ne veut pas que vous restiez dans un lit douillet, il veut que vous soyez veillant et priant. Pour que vous puissiez veiller, il faut vraiment que ça aille mal. Il faut que vous rencontriez ces difficultés-là. Il nous apprend à veiller et à prier. Par les épreuves, les tentations par lesquelles on passe, il veut que nous soyons veillants. Pierre a fini par apprendre ça. Quand Pierre a appris ça, Pierre a voulu nous dire, à nous qui venons après lui, poussé par l'esprit, Pierre a écrit ceci. On connaît le verset 1 Pierre, chapitre 4. Verset 7. Il nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force, pas selon sa propre force, mais selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, il nous donne cette recommandation, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est normal. Dieu ne veut pas que vous vous endormiez. Dieu veut que lorsque le cri retentira, que vous puissiez entendre Et pour nous tenir éveillés, il nous demande d'observer l'aigle. Comment il fait avec les aiglons? Si vous lisez cela en entier, vous allez penser que l'aigle n'aime pas ses aiglons. Mais il les aime. Satan viendra vous dire que Dieu ne vous aime pas, mais Dieu vous aime. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que vous soyez tous sauvés. C'est ça la détermination divine. Il ne veut pas que vous le serviez en vain, que vous ne fassiez que remplir votre tête de connaissances, de choses. Non, Dieu veut que vous soyez veillants, que vous l'attendiez réellement. Alors parfois, ces choses-là nous arrivent. Parfois, cette difficulté-là nous tombe dessus. On en verse des larmes. Ça nous fait réfléchir. Ça nous rapproche de lui. Et à ce moment-là, on est conscient qu'on a un Dieu. Un Dieu qui console. Moi, je vais vous répéter ce que les Écritures disent. Quand vous êtes accablé, je vous dis, oh, c'est Dieu est le grand consolateur de tous. Et puis après, je m'en vais. Mais Dieu ne s'en va pas. Il reste avec vous. Et quand l'aigle apprend à ses petits à voler, il leur apprend à voler au-dessus des problèmes. Il ne le fait pas pendant qu'ils sont encore tout bébés. Quand ils n'ont que des duvets, avec cela, ils ne pourront pas voler comme la maman aigle, comme elle. La maman aigle va attendre que les aiglons aient des plumes comme les siennes, aussi solides que les siennes. Le frère dit, pour enlever une plume. La plume d'un aigle, mais il faut vraiment mettre votre pied dessus et tirer de toute votre force, tellement ces plumes sont solidement ancrées. L'aigle est constitué à vivre dans une atmosphère compliquée pour les autres, tout comme le chrétien. L'atmosphère dans laquelle vous vivez, un mondain ne sait pas y vivre. Il va éclater. Un mondain peut vous suivre, ou un dénominationnel. Si vous êtes un véritable chrétien, je ne parle pas de message ou quoi, je parle de vous en tant que chrétien. Un chrétien, je ne veux pas dire un véritable chrétien, un chrétien, il est véritable, dès le départ. Bon, un chrétien, là où il va, un soi-disant chrétien ne sait pas le suivre. Il va le suivre jusqu'à un certain point et puis il va dire, tu exagères. Mais tu n'exagères pas, c'est ta vie. C'est ta vie. Et c'est le Seigneur lui-même qui t'apprend ça. Alors, quand l'épreuve arrive, quand les bonnes choses arrivent, la bénédiction arrive. Comme dit Job, quand le bien arrive et que le mal arrive, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu nous apprend. Et quand Job est passé par là, Job s'écrit, il dit, j'ai parlé de choses sans bien les connaître, sans intelligence. Il dit, maintenant je sais une chose, mon Dieu peut tout. Et quand l'aigle prend ses jeunes, ses aiglons, pour la première fois, pour leur permettre de voler en solo, il les prend sur ses plumes, comme c'est écrit là, sur ses ailes, il descend avec eux dans la vallée, il les met là dans la vallée. Et lui, il va tout haut sur la montagne. Du haut de la montagne, il surveille. Ces aiglons semblent être abandonnés. Un coyote peut passer et puis s'en prendre aux aiglons, mais il va leur montrer que il est peut-être loin comme cela de vue, mais en fait, il n'est pas loin du tout. Qu'en quelques secondes, il peut arriver sur les coyotes et sauver ses petits. Christ n'est pas loin de nous. Et quand il déploie ses ailes, le frère dit, quand les aiglons voient, quand il va déployer ses ailes, ils vont tous crier en même temps, Oh, maman, on ne savait pas que tu étais aussi grande. Yes. Alors, quand Dieu va déployer ses deux ailes, vous avez dit, je ne savais pas que tu étais aussi grand. C'est ainsi que Dieu vous tient éveillé. Il dit, regardez comment l'aigle fait avec les aiglons. C'est ainsi que lui fait avec vous. Les difficultés par lesquelles vous passez, vous en faites pas. Il est là. Et il vous voit. Il dit aux disciples, allez de l'autre côté, c'est Matthieu 14. Moi, je vais prier. La tempête a soufflé, à un moment donné, tout leur était contraire. Ils ont commencé à ramer, le vent était contraire, les vagues ont commencé à s'élever, et ainsi de suite. Et puis, ils paniquent et le voilà qui arrive en marchant sur l'eau. C'est là qu'ils ont reconnu également, même quand ils dormaient dans la barque, dans Matthieu 8. Ils l'ont juste réveillé et il a calmé le vent et la tempête. Ils se sont rendus compte, celui-ci, il est vraiment le Fils de Dieu. Vous ne vous rendrez compte du Seigneur comme étant le Seigneur que lorsque vous le verrez dans ses œuvres, combien il vous a sorti d'un mauvais pas. Et c'est ce qui est arrivé avec Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils se sont dit, oui. Le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, c'est le grand Dieu. Pharaon et ses troupes ont été noyés dans la mer Rouge. Amen. Nous sommes avancés maintenant dans le temps. Les difficultés vont devenir de plus en plus difficiles. Vous montez de plus en plus haut. Les aigles, ils ne se désintégreront pas. Par contre, vous savez, pour aller très haut sur la montagne, même les alpinistes, ils ne peuvent pas y aller comme ça d'un coup. Ce n'est pas bon. Ne le prenez pas avec un hélicoptère et puis amenez-le. En 20 minutes, il est là-bas, vous le sortez. Ce n'est pas bon. Il peut mourir. Ils doivent aller par palier. Un alpiniste sage doit savoir qu'il doit aller par palier. Il va à 10 mètres et puis après. Il se repose et le temps que son organisme s'habitue à cette pression-là. C'est valable aussi pour aller en profondeur dans l'eau. Plus vous descendez, plus la pression est forte. Alors, il ne faut pas plonger, aller directement à moins 200 mètres. C'est fini, vous ne saurez pas respirer, vous allez mourir étouffé. Il faut y aller par palier. Et le chrétien, il va par palier. Mais ces paliers-là, c'est Dieu qui conduit. C'est le grand alpiniste qui vous y mène. C'est le grand aigle qui vous y conduit. Amen. Et en un cri, il est celui qui les rassemble. Il est celui qui revient, qui leur apprend à voler. Vous avez des ailes. Lorsque vous êtes perturbé, par un petit animal là, comme ça, qui vient essayer de vous embêter. Pour éviter le bruit, hein, déployez seulement vos ailes, vous allez voir comment vous allez voler. Et c'est comme ça qu'il leur apprend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Ces moments difficiles, un jour, auront leur terme. Et je vous assure, les vainqueurs, ils vont apprécier la victoire. Et quand j'ai une nièce qui est témoin de Jéhovah, elle me dit, moi je n'adore que Jéhovah, je n'adore pas Jésus. Moi je dis, eh bien c'est triste pour toi. Parce que le ciel entier, dans Apocalypse 5, je dis, puis eux ils disent Révélation, moi je dis, va lire Révélation chapitre 5. Le ciel tout entier, avec les saints qui étaient là-bas, vous avez dit, lui ont rendu hommage, eh bien, tout le ciel lui a rendu hommage, hein, si vous voulez, hein, et sauf vous, sauf les témoins de Jéhovah. Mais moi, je suis parmi ceux-là, hein, qui ont rendu, parce que quand je vais voir, vous savez, un bien-aimé comme David, quand il va chanter la gloire, la grâce de Dieu, mais vous ne savez pas avec quelles ailes il va chanter ça. Vous devez savoir d'où vous venez pour que vous puissiez aujourd'hui crier cette grâce. Comment apprécier cela? Une fois que vous avez apprécié cela, vous en faites pas. Si vous êtes encore de ce côté-ci du temps, vous allez vous mettre à genoux et commencer à louer votre Dieu. La nuit même, là, si c'est la nuit ou si c'est la journée, à un moment donné, vous arrêtez tout ce que vous faisiez et puis vous allez commencer à le remercier, à lui rendre grâce. Prions le Seigneur. Sois béni, Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, pour ta bonté, pour la protection que tu nous assures, pour la manière dont tu nous enseignes, au travers de la nature, au travers de ta création. Nous en tirons tout un enseignement. Et cela pousse nos cœurs à te glorifier. Cela pousse nos cœurs à te rendre gloire, à te louer de toutes nos forces. Comme le frère, alors qu'il observait les aigles, oh, même des larmes lui ont coulé des yeux. Oh, moi je me souviens, non pas un aigle, mais un simple oiseau, dans cette enceinte, ce jour-là, parce que j'observais cet oiseau, j'ai pu dire combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Ta création tout entière nous parle de ta grandeur, de ta majesté. Sois béni. Vraiment, comme dit le cantique, quand mon cœur considère toutes ces choses, comment un Dieu si grand a-t-il pu penser à moi? Il me connaît. Il connaît mes problèmes, il connaît les problèmes de mes frères, de mes sœurs. Et nous en sommes si heureux. Tu entends nos prières, tu nous exauces. Nous te remercions pour toutes choses. Maintenant que nous avons terminé, te demandons de nous raccompagner. Que nos cœurs soient rassurés. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur nous et sur tous les nôtres. Il ne nous a pas abandonnés. Quand bien même on a demandé des guérisons, on n'a pas vu cela se manifester. Nous savons que tu nous entends et que tu connais. Peut-être que si ces cas n'étaient pas là, peut-être que nous te prierons moins. Mais parce que ces cas sont là, te prions, Père, pour les nôtres, pour nous-mêmes. Nous avons toujours ce sujet de prière. Accompagne chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Seigneur, bénisse. Je voulais juste vous dire, pour les bien-aimés, c'est pour eux seulement, pour ceux qui sont diabétiques, s'ils ont un malaise, un problème de glycémie, ici à l'Assemblée, il y a du coca qui se trouve pour eux, qu'ils le sachent. On ne commence pas à courir dans tous les sens, dans les épiceries. Pour les diabétiques, celui qui ne l'est pas, n'en a pas besoin. On ne vient pas ici pour boire du coca. Ça va? Quelles que soient les circonstances, que ce soit pendant les veillées, hein, que ce soit s'il y a un problème, on a demandé à ce que ça s'achète, parce que parfois il y en a qui oublient ou bien ils se sont injectés une trop forte dose d'insuline. Il se retrouve dans une situation un peu compliquée ici. Avec le coca, ça va vite pour relever la glycémie. OK? Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, et si tard, nous nous retrouvons dimanche.